Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la présentation, Blaise Chindani Kambala. D'abord, les sommaires de ce journal. Les casques bleus de la MONUSCO appuient depuis vendredi les FARDC face aux attaques des miliciens de la CRP dans trois localités du territoire de Djougou. Samedi, ils ont riposté presque toute la journée au tir de cette milice pour protéger les civils. Les détails dans quelques instants. Les Sud-Oubangui manquent de routes asphaltées. Des véhicules ont du mal à circuler entre les villes de cette province. C'est pourquoi un notable de cette province invite la première ministre Judith Suminwa à visiter cette province afin de comprendre comment vivent les populations de ces coins du pays. L'invité de ce journal est Claude Kalinga, chargé de communication du PAM. Il fait partie de la délégation qui séjourne à Mbujimayi pour échanger avec les autorités locales autour des inquiétudes sur les détournements des intrants nutritionnels destinés aux enfants malnutris et voir comment lutter contre la désinformation. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous ouvrons notre journal en Ituri où les casques bleus de la MONUSCO appuient depuis vendredi les FARDC face aux attaques des miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire CRP dans les localités de Boulé, Ka et Loda en territoire de Djougou. Samedi, ils ont riposté presque toute la journée au tir de cette milice pour protéger les civils. Deux militaires FARDC blessés au front ont également été évacués vers Bounia grâce au soutien logistique de la MONUSCO. Par ailleurs, une vingtaine d'humanitaires se sont réfugiés dans la base militaire de Bayo pour leur sécurité. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Depuis vendredi, les casques bleus sont en alerte maximale pour contenir la menace de la milice CRP. Déployés sur le terrain, ils protègent les civils pris entre les forces loyalistes et les combattants de la CRP, notamment autour des Bayo. Ils ont aussi intensifié leur patrouille dans les villages environnants et autour des sites déplacés des Sapali et Tchoupa avec des tirs de sommation pour décourager toute attaque. Samedi, la force de la MONUSCO a essuyé à au moins 5 reprises des tirs des miliciens à Bayo et près du site déplacé des Loda sans enregistrer des victimes. Les casques bleus ont riposté et repoussé toutes ces attaques. Des militaires FARDC ont toutefois été blessés lors des affrontements avec les éléments de la CRP. Ils ont reçu les premiers soins à la base des Bayou avant d'être évacués par hélicoptère vers Bounia. Dans la soirée, un mouvement suspect des miliciens CRP a été repéré près des positions FARDC à Boulé. Les FARDC et une patrouille de la MONUSCO ont immédiatement riposté pour repousser ces assaillants. Face à l'insécurité persistante, 29 membres du personnel des deux agences des Nations Unies ont trouvé refuge samedi à la base des Bayo pour leur protection. Un calme précaire règne désormais dans la zone après les combats qui ont fait au moins 7 morts dans les rangs de la milice, plusieurs blessés et des civils seraient tués. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Pendant ce temps, le ministre des Droits Humains Samuel Mbemba poursuit son désemparé sans campagne sur la vulgarisation des résolutions reconnaissant les génocides congolais. Après Kinshasa, le ministre des droits humains séjourne à Bruxelles en Belgique où il a animé ce samedi un forum à l'Université libre de Bruxelles ULB sur les thèmes reconnaître les génocides congolais, un impératif pour la justice internationale. De nombreux étudiants congolais et autres participants ont pris part à ce rendez-vous. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Au cours de cette conférence, le ministre des Droits humains a invité l'assistance à s'approprier les combats pour la reconnaissance du génocide congolais. Pour Samuel Mbemba, cette bataille porte déjà des fruits grâce aux résolutions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que celles de la société civile africaine. À cette occasion, il a salué la signature de l'accord de paix conclu entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique à Washington. Ce membre du gouvernement souminois a également indiqué que ce texte obligera le Rwanda à respecter ses engagements et ouvrira la voie à la justice transitionnelle en RDC. De son côté, une étudiante congolaise de l'Université libre de Bruxelles a encouragé ses collègues à tout mettre en œuvre pour que le génocide congolais soit reconnu au niveau des institutions internationales. Au pays, les catholiques, les protestants et pasteurs des autres confessions religieuses s'engagent également pour la reconnaissance des résolutions affirmant l'existence de ces génocides.
Retournons au pays pour parler de cet hélicoptère qui a échoué dans les eaux du lac Tanganyika ce 5 décembre pendant la journée aux abords de la localité de Yungu dans les territoires des Fizi. Les bilans provisoires est d'un mort et deux membres de l'équipage repêchés selon un des responsables de la nouvelle société civile congolaise du territoire de Fizi. Les opérations de sauvetage se sont poursuivies jusqu'à tard dans la soirée. Aucun autre détail sur cet appareil n'a été fourni, mais les trois occupants à bord étaient tous des expatriés. L'appareil provenait d'Uvira, au sud Kivu, à destination de Kalemi, dans la province du Tanganyika. À Kisangani, les victimes des guerres ont organisé un sit-in vendredi devant le bureau de la société civile Force Vive. Encadrée par leur comité de crise, elle réclame la réouverture urgente du bureau de coordination du fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Cette structure chargée de leur indemnisation est fermée depuis plusieurs mois. Les victimes dénoncent également des cas de manipulation de certains membres à des fins de positionnement. Jacques Moukonkolé, reportage.
Au cours de cette manifestation, le président du comité de crise du Fonds de solidarité a fustigé la fermeture prolongée du bureau du Frivao. Jean Kalegamire demande au gouvernement central de clarifier la situation administrative et financière de cet établissement public. Ceci pour que reprenne le processus d'indemnisation dans la transparence.
Le comité de crise reste serein et attend avec patience les fruits de la restructuration profonde par vous, notre ministre des tutelles, pour la reprise des activité d'indemnisation effective et totale des victimes de guerre au sein des Frivao.
Ce temps mort donne l'occasion à certains esprits malveillants de tenter de manipuler certaines victimes de guerre à de fins de positionnement, révèle le président du comité de crise. Cette situation risque de déboucher à des divisions qui risqueraient d'accentuer leur vulnérabilité sociale et économique, prévient Jean Kalegamire. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, le collectif des députés nationaux honoraires réélus de la législation de 2018-2023 demande à la première ministre Judith Suminwa d'instruire le ministre des Finances pour qu'il paye leur indemnité de sortie. Ils ont déposé un courrier au bureau de l'Assemblée nationale ce week-end avec un seul préalable: tenir compte de leurs revendications avant l'adoption du budget de l'exercice 2026 afin de favoriser un climat de paix sociale avec ceux qui ont servi la République pendant 5 ans. On écoute Ntumba Chiabola, coordonnateur et porte-parole du collectif des députés nationaux honoraires réélus de la législation 2018-2023 au micro de Richard Junior Kamunga.
Dernièrement, nous étions dans une réunion tripartite entre l'Assemblée nationale, le gouvernement ainsi que la délégation des députés nationaux honoraires et réélus de la législature 2018-2023. Au cours de cette réunion tripartite, le gouvernement avait pris l'engagement de payer les restes de notre haut pays de 75%, qu'il avait payé partiellement à 50% depuis le 1er novembre de l'année en cours. Les dates fixées et convenues pour payer, c'était les 27 et les 28. Malheureusement, nous avons trouvé que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Voilà pourquoi nous sommes venus déposer le courrier pour appeler à notre gouvernement de s'exécuter afin que le budget de l'exercice 2026 soit adopté en toute sérénité. Nous avons servi la République pendant 5 ans et nous continuons à servir la République d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons aucune revendication excessive, c'est juste un droit. Un droit n'est droit que lorsqu'il est réclamé. Et lorsque vous ne le réclamez pas, ça veut dire que ce n'est pas votre droit. Cela n'empêche pas d'autres catégories sociales de réclamer.
Je le disais en titre, la province du Sud-Ubangi manque de routes asphaltées. Des véhicules ont du mal à circuler entre Akula et la ville de Gemena qui, elle aussi, manque de voiries urbaines. Témoignage de maître Serge Linzabé, président national du groupe Linzabé pour la mobilisation culturelle du Sud-Ubangi. Il plaide pour la construction des routes tout en appelant la première ministre Judith Suminwa Tuluka à visiter cette province afin de comprendre comment vivent les populations de ces coins du pays. On écoute maître Serge Linzabé au micro de Jude Mystère Bilanda.
La route est très dégradée. À Gemena, la voirie urbaine est inexistante. Il y a de la poussière, les enfants tombent malades. Il n'y a aucun kilomètre asphalté dans la province du Sud-Ubangi, même dans son chef-lieu qui est la ville de Gemena. Pouvez-vous imaginer que pour une route de moins de 200 kilomètres, Gemena-Akula, des véhicules font 2 semaines, voire plus? Et c'est vraiment une situation désespérée. Qu'on nous donne ne fût-ce que 10 km d'asphalte.
ne fût-ce que dans la ville de Guémena, pour essayer de donner de l'espoir à cette ville. Nous ne demandons pas beaucoup, ne fût-ce que 10 km d'asphalte pour aider la ville. Même si le gouvernement n'a pas les moyens de construire immédiatement, mais si la première ministre arrive à Guémena, qu'elle palpe la situation, ce serait le début de la solution de notre problème.
Province du Haut-Katanga, le service national a remis ce vendredi 1500 bancs pupitres à 13 écoles de Lubumbashi qui fonctionnent au sein des bâtiments du complexe scolaire Kiwele, l'un des plus grands établissements scolaires de la ville de Lubumbashi. Cette remise s'inscrit dans le cadre de l'opération dénommée « Pas d'école publique et université sans bancs ». Le point avec Paul Mounanga.
Parmi les écoles bénéficiaires, il y a l'Institut Uwezo, le lycée Kiwele, l'Institut Moto, l'Institut des Beaux-Arts, l'Institut d'éducation civique, l'Institut Bana Congo, les écoles primaires Kiwele 1, 2, 3 et 4 et tant d'autres. Pour les commandants du service national, avec ces bancs, les problèmes de capacité d'accueil est résolu dans des écoles. Il rappelle que ces bancs pupitres sortis des ateliers du service national à Lubumbashi ont été fabriqués par d'anciens koulouna devenus bâtisseurs de la nation. Lieutenant général Jean Kasongo Kabouik.
Le chef de l'État avait décidé de relancer l'encadrement des jeunes des œuvres appelés Koulouna Kishasa, vagabonds à Lubumbashi. Après un séjour d'encadrement civique et patriotique au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamakassé, ces jeunes ont été initiés au métier. Nous comptons des menuisiers, des maçons, des ajusteurs, des conducteurs d'engins lourds. Ce sont ces jeunes menuisiers formés à Kanyamakassé qui ont fabriqué des bancs qui sont aujourd'hui mis à la disposition des écoles de la République démocratique du Congo.
Plusieurs écoles à travers la République sont déjà équipées en bancs. En même temps, les services nationaux ont formé des jeunes qui se sont spécialisés dans la maçonnerie. À ce jour, plus d'une trentaine d'écoles construites par les services nationaux sont opérationnelles dans les Grands Kasaï et les Grands Katanga. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Rendons-nous au Congo central, plus précisément dans la ville de Matadi, où les habitants de cette ville décrit la hausse des prix des bilokos, communément appelés bilokos. La vente de ces produits de seconde main, principale activité commerciale des fils et filles de Matadi, n'est plus aussi rentable à en croire les commerçants matadiens. Sur place, Élise Kavira sillonne la ville et nous partage les résultats de son enquête.
À chaque coin de rue, des magasins et étalages remplis de toutes sortes d'appareils, matelas, fauteuils et divers, venus d'Europe et d'ailleurs vendus à moindre coût. Mais plus d'engouement d'acheteurs comme ce fut le cas dans les temps anciens. Mavinga Tonton, vendeur des bilokos depuis plus de 22 ans, lance son cri du cœur.
Marche, ça allait bien au début.
On vendait bien auparavant, mais nous avons une difficulté. La difficulté est aussi du côté des importateurs et aussi pleurniche suite à la douane.
Rendu au port Matadi Gateway Terminal, MGT en sigle, nous rencontrons Jean Mokonda, un déclarant connu à ces ports pour son ancienneté. Il explique ce qui, selon lui, serait à la base de cette hausse de prix.
L'État doit revoir les taxes. S'ils ne parviennent pas à revoir la taxe, ça serait terrible. C'est pourquoi on dit que les bilokos sont chers. Non, les bilokos ne sont pas chers. Quand quelqu'un doit dédouaner un conteneur à 15 000 dollars, il doit savoir comment vendre les bilokos pour récupérer son argent de fret.
Les habitants de Matadi demandent aux autorités locales de suivre cette situation de près, car la vente de bilokos est un atout économique non négligeable pour la ville. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Un mot sur la santé dans ce journal avant d'aller plus loin. La trypanosomiase humaine africaine, communément appelée maladie du sommeil, sévit toujours dans la province du Kwilu. Depuis le début de l'année, 196 cas ont été recensés dans 5 zones de santé. Le coordonnateur du programme national de lutte contre cette maladie au Kwilu indique que la situation reste préoccupante malgré la prise en charge des patients. Le docteur Patou Ngazobo a été joint par Jean-Claude Ntangamo.
La province du Kwilu est actuellement la province la plus endémique de la maladie du sommeil. Donc actuellement, nous avons une situation qui nous pose un sérieux problème. Nous avons 5 zones de santé où on a constaté, au lieu d'avoir dans l'ensemble une diminution des nombres de cas, mais dans ces zones de santé particulièrement, nous avons une augmentation des zones de cas. Donc l'inquiétude est plus dans la zone de santé de Kimputu, dans la zone de santé de Ipamu, dans la zone de santé de Boulungu et dans la zone de santé de Mokala. Sans vous oublier Sabonga et Mosango aussi, qui constitue un sujet d'inquiétude. On ne compte pas encore le T4, donc ça veut dire que de janvier à septembre, la province du Kulu a déjà notifié 163 nouveaux cas. Pour la prise en charge des médicaments, il y a l'OMS avec ses différents partenaires qui mettent à la disposition les médicaments. L'OMS nous fait parvenir et il y a la disponibilité des médicaments. Nous n'avons pas les ruptures des médicaments au niveau de la province. Tous les malades diagnostiqués, tous ont été mis sous traitement.
Actualité internationale.
Au Cameroun, les propos de Paul Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, sur l'opposant Anissé Ekane, décédé en prison le 1er décembre, font polémique. Le ministre, dans une interview vendredi sur Percé TV, une chaîne de télévision appartenant à la présidence de la République, a estimé qu'Anissé Ekane n'est ni martyr, ni héros, tout en critiquant son soutien à Issa Tchiro Mabakari, l'opposant déclaré deuxième de l'élection présidentielle du 12 octobre qui continue de revendiquer sa victoire à ses scrutins.
L'invité.
Une délégation du programme alimentaire mondial PAM séjourne à Mbujimayi au Kasaï oriental depuis jeudi dernier. D'après Claude Kalinga, chargé de communication au PAM, cette délégation est venue échanger avec les autorités locales autour des inquiétudes sur les détournements des intrants nutritionnels destinés aux enfants malnutris et voir comment lutter contre la désinformation. Claude Kalinga s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Claude Kalinda. Voilà, vous êtes en Mbujimayi au Kasaï oriental. Quel est le but de la mission?
Merci. Je suis en mission ici pour rencontrer les médias, les autorités, afin de leur faire part de certaines inquiétudes concernant un certain nombre de problèmes, un certain nombre de questions relatives notamment au détournement ou à la vente des intrants nutritionnels dans la majeure partie des centres de santé que nous appuyons en intrants nutritionnels et aussi pour essayer de lutter contre la désinformation selon laquelle le PAM achète du maïs sur le marché et ce qui contribue à la hausse des prix. Il y a aussi la question de l'arnaque. Il y a des gens qui continuent à utiliser les réseaux sociaux, les réseaux téléphoniques pour escroquer le possible citoyen. Ils leur proposent en fait le recrutement au PAM. Contrepartie, ils leur demandent soit des crédits téléphoniques, soit de l'argent. Donc, il était temps que nous venions pour parler avec les autorités, avec tous les partenaires dans les médias, pour qu'ensemble nous puissions sensibiliser la population, donc leur demander d'être alertes. Si jamais ils tombaient sur l'une de ces questions que je viens d'évoquer, qu'ils sachent qu'il s'agit simplement soit de l'arnaque, soit de la désinformation.
Nous pouvons dire que les activités du PAM sont méconnues de la population. Et c'est aujourd'hui, après plusieurs années, que le PAM vient vers les journalistes pour leur parler. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette politique ne permet pas, même aux médias, de bien travailler en collaboration avec le PAM?
Vous avez tout à fait raison, madame. En fait, la dernière fois que nous avons organisé une activité avec le média date d'il y a à peu près 2 ans ou au-delà. C'est une anomalie. Donc, il est important pour nous de communiquer de manière régulière avec le média parce qu'en fait, lorsque l'information n'est pas donnée, finalement, tout le monde cherche n'importe laquelle et on tombe dans la désinformation ou simplement dans la mésinformation ou les rumeurs. Nous avons finalement décidé de pouvoir continuer maintenant, désormais, à parler aux médias, à sensibiliser la communauté. Au besoin, nous allons, notamment avec les médias, tenter de distribuer tous les 3 mois un document qui retrace au moins les grandes réalisations trimestrielles des actifs, disons, du PAM, de sorte que les médias soient informés et à leur tour, ils en informeront la population.
Au cours du point de presse, vous avez indiqué que le PAM a suspendu la distribution de la ration alimentaire auprès des nécessités. Quel est le motif?
En fait, dans la région du Grand Kasaï, vous savez que suite aux malheureux événements liés à ce que nous, tout le monde connaît, le Kamuinasapo, une grande majorité de la population était en déplacement. Donc, le PAM était obligé d'activer son mandat, son pilier de la réponse aux urgences et pour sauver les vies et raison pour laquelle le PAM, en fait, à ce moment-là, devait voler au secours de ces personnes déplacées partout. Donc, maintenant que ces événements malheureux sont derrière nous, donc la population population n'a pas besoin qu'on leur donne du poisson. La population a besoin plutôt qu'on l'accompagne, qu'on leur apprenne à pêcher. Raison pour laquelle, en nous alignant sur les plans prioritaires du gouvernement, nous ne pouvons plus continuer à distribuer de la nourriture, mais nous assistons la population à travers les activités de renforcement des résiliences, des petites productions agricoles, afin que ces communautés locales puissent se prendre en charge. Donc, ils produisent, parce que le PAM n'est pas appelé à demeurer éternellement dans la zone. Le jour où le PAM va se retirer, que cette population continue à compter sur elle-même, continue à produire. Donc, raison pour laquelle nous avons un certain nombre d'activités allant dans ce sens. Et voilà, nous sommes fiers qu'aujourd'hui, les résultats sont là. Et nous pensons que les communautés locales vont pérenniser ces différents programmes et projets.
Comment évaluez-vous votre aide humanitaire dans le Kasaï oriental?
Il faut dire sincèrement que les besoins sont très, très énormes. Les projets que nous avons ici, c'est des projets qui sont des projets pilotes. Mais si on avait assez de ressources, nous, on pouvait faire plus que ça. Aujourd'hui, nous sommes vers Miabi, un peu plus de ce côté-là. Donc, nous aimerions pouvoir aller dans plusieurs territoires à la fois. Cela demande beaucoup de ressources avec les coûts budgétaires d'un grand nombre de nos partenaires, dont donateurs. Donc, on se retrouve en difficulté pour pouvoir étendre de manière considérable nos activités.
Monsieur Claude Kalinga, merci.
Merci.
C'était notre invité Claude Kalinga qui s'entretenait avec Esther Ndalafina et c'est ce qui met fin à notre journal qui a connu la coordination et la supervision éditoriale de Gide Mister Bila Nankuma et mise en onde par Jean-Claude Salamana Makengonsalo. Ce journal est à suivre sur notre site internet www.radiocapi.net.